7h, il est 7h. Le journal, Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
À la une ce matin, des Israéliens derrière leur Premier ministre.
À Tel Aviv, particulièrement touché par les missiles iraniens, notre envoyé spécial a rencontré des habitants favorables à l'attaque israélienne massive contre l'Iran. L'Iran perçu comme une menace majeure sur l'existence même d'Israël. Tandis qu'à Paris, l'eurodéputé d'origine palestinienne, Rima Hassan, dénonce le soutien de la France à Israël. Dans l'actualité aussi, l'ancien président Nicolas Sarkozy, déchu de sa Légion d'honneur, le Parti socialiste qui cherche son unité et puis des médailles pour l'escrime française au championnat d'Europe.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, un flou à la fois esthétique et politique, visite d'une très gracieuse exposition au musée de l'Orangerie à Paris avec notre première invitée, la directrice du musée. Et à 8h20, Jean-Louis André, réalisateur et essayiste, est avec nous pour le grand entretien. Il signe chez Odile Jacob un livre intitulé « Notre chez-soi, la maison des Français depuis les Trente Glorieuses ».
France Inter. Téhéran brûle, affirme ce matin le ministre de la Défense israélien. Deux dépôts de carburant sont en feu dans la capitale iranienne. L'armée israélienne affirme viser des cibles liées au projet iranien de se doter de l'arme nucléaire, comme le ministère iranien de la Défense. Et dans l'autre sens, des missiles iraniens ont visé cette nuit plusieurs villes en Israël, faisant 3 morts et 130 blessés. La ville de Tel Aviv a été particulièrement touchée. Et pour autant, ses habitants rencontrés par Alice Moreno soutiennent plus que jamais Benjamin Netanyahou.
Pourtant résidente d'un quartier visé par une frappe iranienne, Sarah soutient plus que jamais le chef du gouvernement.
We must finish with Iran. We are doing the job.
Nous devons en finir avec l'Iran. Nous faisons tout le boulot pour tous les pays du monde. Nous n'avons pas le choix car nous sommes le premier pays que l'Iran veut bombarder. Benjamin Netanyahou est très très courageux, vous savez.
Donc vous le soutenez encore plus qu'avant?
Encore plus, oui, encore plus.
Israël a frappé l'Iran en premier, un déclenchement du conflit assumé ici.
De manière évidente, c'est Israël qui a débuté ces attaques. Mais il faut dire que nous avons déjà connu des guerres avant. Nous ne sommes pas une nation qui cherche la guerre. Nous la menons simplement si nous avons l'impression que ne pas entrer en guerre entraînerait des conséquences plus graves.
Les conséquences, la riposte iranienne, les Israéliens s'y attendaient. David, 70 ans, est chauffeur de taxi. Il n'est pas particulièrement inquiet.
J'ai connu la guerre du Kippour, l'opération Paix en Galilée au Liban. C'est toujours la même chose, rien de nouveau. À mon âge, je ne m'inquiète plus.
Lui aussi est convaincu que l'Iran représentait bien une menace. À Tel Aviv, Alice Moreno, France Inter.
Et en réponse à ces attaques, l'Iran se retire des négociations sur son programme nucléaire. Les discussions devaient reprendre aujourd'hui avec les États-Unis. L'épicentre du conflit au Proche-Orient se déplace donc de Gaza vers l'Iran. Pour autant, des milliers de personnes ont défilé hier à Paris pour la Palestine à l'appel de syndicats et de partis de gauche, dont le Parti Socialiste, la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. La situation iranienne était bien sûr présente dans tous les esprits. Dans le cortège, l'eurodéputé LFI, Rima Hassan, de retour en France après avoir été expulsée d'Israël. Pour elle, le gouvernement français doit arrêter de soutenir Benjamin Netanyahou.
Je regrette que la France s'aligne automatiquement autour de la position israélienne. Je crois que la France gagnerait vraiment en grandeur et en honneur à porter une voix qui rassemblerait au-delà. Je veux juste souligner que le seul moment où nous avons obtenu, si vous voulez, gain de cause, où nous avons réussi à faire un peu plier le régime iranien, auquel nous sommes opposés, il faut le rappeler, c'est en 2015, c'est par voie diplomatique, quand nous avons réuni tous les pays du Conseil de sécurité des Nations Unies, et en proposant des contreparties, des garanties de sécurité, si vous voulez. Et donc c'est tous ces éléments qui nous ont permis d'avancer, et je rappelle que cet accord a été défait par les États-Unis en premier lieu. On ne peut pas, si vous voulez, s'aligner à la position israélienne qui est dans une dérive sur tous ses fronts, que ce soit avec la Syrie, que ce soit avec le Liban, que ce soit avec la Palestine, que ce soit avec l'Iran. Le risque en réalité, c'est que le régime iranien se crispe davantage.
Rima Hassan avec William Delesseux. Aux États-Unis, la police est toujours aux trousses de l'homme soupçonné d'avoir tué une élue démocrate du Minnesota ainsi que son mari et blessé un autre élu local et sa femme. Le gouverneur Tim Walz dénonce un acte délibéré de violence politique. Une liste comprenant les noms de nombreux élus a été retrouvée dans la voiture du suspect. C'est un homme de 57 ans, armé et dangereux, précise la police. Emmanuel Macron, attendu au Groenland aujourd'hui, c'est le premier dirigeant étranger à se rendre dans le territoire autonome danois depuis les menaces du président des États-Unis qui veut l'annexer. Le président français veut marquer sa solidarité avec le Danemark.
7h05 sur France Inter, c'est un coup dur pour l'ancien président Nicolas Sarkozy.
Déchu de la Légion d'honneur, la décision vient d'être publiée au journal officiel. C'est une sanction automatique en cas de condamnation définitive. Or, Nicolas Sarkozy a été condamné à 1 an de prison pour corruption dans l'affaire des écoutes. On y revient dans le journal de 8h. À la recherche de l'unité, le Parti Socialiste se déchire au congrès de Nancy. L'opposant d'Olivier Faure, Nicolas Maillard-Rossignol, réclame une rupture totale avec LFI. Depuis hier, les cadres tentent de se rassembler autour d'un projet commun, un texte qui serait voté par les différents courants du parti. Les militants, eux, en ont marre de ces querelles. Lise Roseveil, vous leur avez donné la parole.
Marilyn fait le tour des stands. Elle vient de récupérer un exemplaire du journal socialiste de 1905, au titre évocateur.
Le congrès d'unité. Il pourrait très bien s'appeler aussi le congrès d'unité, celui de Nancy. De recherche de l'unité.
Militante dans la Meuse depuis 30 ans, elle en a vu des divisions, mais cette fois elle s'inquiète pour l'avenir du parti, déjà très affaibli.
J'avoue que c'est pas très encourageant pour la suite. Moi j'ai un peu peur que les divisions continuent à subsister et que ça ne va pas le renforcer, hein. C'est évident. Hein.
Juste à côté, devant la boutique officielle, Laurence découvre son premier congrès. Elle a pris sa carte il y a 6 mois.
Tout le monde parle de rassemblement, etc. Mais en fait concrètement, dans les échanges que je peux avoir avec les gens, c'est pas ça encore en fait. Et moi ça m'énerve un peu dans la mesure où on en parle beaucoup, donc je suis un peu déçue, j'avoue.
Françoise et Fatima aussi sont en colère. Elles sortent de l'amphithéâtre où les opposants à Olivier Faure ont haussé le ton. Elles n'en peuvent plus de ces guéguerres.
Le principal, c'est le combat contre le RN. C'est pas un combat entre nous au Parti Socialiste. C'est pas possible.
Les militants sont rassemblés, c'est leurs représentants qui le sont pas et qui cherchent encore des places. Donc ça commence à être saoulant.
En partant, elle lâche, excédée. Le PS veut rassembler la gauche, mais a du mal à se rassembler lui-même.
Et Olivier Faure doit prononcer aujourd'hui le discours de clôture de ce congrès. L'incendie qui s'est déclaré hier soir à Rognac, dans les Bouches-du-Rhône, sur un site de traitement de déchets classé Céveso, est circonscrit. 170 sapeurs-pompiers sont sur place. Un gendarme et un pompier ont été blessés. La préfecture qui a effectué des relevés informe qu'aucune toxicité n'a été retrouvée dans l'atmosphère.
À Lisbonne, Palerme ou encore Palma de Majorque, des militants appelés à manifester contre le surtourisme.
Oui, des rassemblements coordonnés entre l'Espagne, le Portugal et l'Italie pour dénoncer la pression du tourisme sur le coût de la vie et du logement. Mais en Espagne, cette colère n'est pas partagée par tous, car le tourisme est le principal moteur de la croissance. Alors ceux qui en vivent se sentent parfois stigmatisés. Henri de la Guérie est allé à la rencontre de ses professionnels à Barcelone.
Bienvenido, chicos. ¿Cómo estáis?
Il dirige 5 restaurants à Barcelone, pas très loin de la plage. Marco Esposito propose une cuisine végétarienne. Appréciée des touristes, la moitié de ses clients sont étrangers.
Le tourisme est fondamental pour nous parce que nous, on a 50 employés et il y en a plusieurs avec des familles. Donc l'été, ça nous donne la possibilité de vivre l'hiver.
À Barcelone, le tourisme représente 18% des emplois et 14% du PIB. La ville bat des records de fréquentation, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Avec l'envolée des prix des loyers, les manifestations contre le surtourisme se multiplient. Une erreur, selon Marco.
Je trouve ridicule qu'une ville qui vit du tourisme, elle soit contre le tourisme. On perd des clients à cause de la mauvaise publicité.
Pour les autorités, l'équilibre est difficile à trouver. Soutenir un secteur essentiel de l'économie tout en préservant la qualité de vie des habitants. Bruno Allais est consultant en hôtellerie.
Une part de la population se sent envahie par ces touristes, mais le touriste paye une taxe, ce qu'on appelle la taxe touristique, et cette taxe est aussi réinvestie dans la propre ville. Un des exemples clairs, c'est les écoles à Barcelone ont des airs conditionnés qui n'étaient pas là il y a deux ans, par exemple.
Le tourisme n'est pas responsable de tous les maux, expliquent les représentants du secteur qui ont parfois l'impression d'être les boucs émissaires d'une politique de logement défaillante en Espagne. Barcelone, Henri de la Guérie. France Inter.
Une belle moisson de médailles au championnat d'Europe d'escrime. Ça se passe à Gênes, en Italie. Lors de ce premier rendez-vous majeur, après le succès des Jeux Olympiques de Paris, la fleurettiste Eva Lacheret et le sabreur Rémi Garrigue sont devenus pour la première fois champions d'Europe. La relève est assurée.
C'était le journal de Corinne Audouin. Tout de suite le Zoom. Ce matin sur un spectacle du 30e festival de Marseille qui bat son plein depuis jeudi. Le public va pouvoir y découvrir 30 spectacles avec les plus grands noms de la danse comme Mehdi Kerkouche, Lia Rodriguez ou Nassera Bellaza. Mais il y a aussi des spectacles participatifs. Bonjour Stéphane Capron.
Bonjour à toutes et à tous.
Participatifs comme cette adaptation de Mère, la pièce de Brecht. Ici, Mère est au pluriel car il s'agit de rendre hommage à toutes les mères du quartier populaire de la Belle de Mai. Et d'ailleurs Stéphane, ce sont elles qui jouent le spectacle sur la scène.
Et je vous emmène sur le plateau du Théâtre de la Criée, où c'est une véritable ruche. Valérie Trébor, la commetteuse en scène, doit gérer 80 personnes au plateau.
Ok, Vincent, ouais, dès que tu as fini 2 minutes, j'ai besoin de toi. Ouais.
Elle co-dirige avec son frère Fabien Aïssa Boussetta, Organon Art Compagnie. Leur théâtre est documentaire. Ils collectent la parole des habitants de Marseille pour les confronter à des œuvres du répertoire. En 2020, c'était Les Suppliantes d'après Eschyle autour de la situation des sans-papiers. Cette année, c'est Brecht et La Mère. Tout est parti du témoignage de Farida Benkelfala, arrivée d'Algérie, soignée pour un cancer. Elle a dû surmonter seule avec son fils beaucoup d'obstacles.
Écoutez, une femme qui cherche une issue. Écoutez aussi l'histoire d'une femme qui devient boxeuse. Moi, je suis devenue boxeuse. Je reçois les coups comme rien. Écoutez aussi, la femme, grâce à son courage, elle a changé. Je sais que je suis une femme forte. Et les larmes, je ne les fais pas devant tout le monde. À la maison, chez moi, je rigole toujours. J'essuie mes larmes pour que je rentre.
Le personnage de Brecht, Pélagie Vlasova, est mère d'un enfant ouvrier. Elle le protège et entre malgré elle dans la lutte révolutionnaire de 1905 en Russie. Pour Fabien Aïssa Boussetta, Farida Benkelfala, c'est un peu la Pélagie de 2025.
Ce personnage de Pélagie Vlasova ne naît pas forte, ne naît pas politisée, mais elle va rentrer en politique par la chose qui lui tient le plus à cœur, c'est sa filiation. Pour protéger son fils, elle va aller distribuer des tracts. Mais elle-même ne veut pas le faire. Et elle se rend compte que distribuer des tracts engage une responsabilité. Les avez-vous lus ? Non, je ne sais pas lire. Donc il faut apprendre à lire. En fait, ce qui est intéressant aussi, par rapport au moment que nous traversons en France du point de vue politique, c'est que cette pièce repolitise par l'empathie et par le lien les participants et nous l'espérons, celles et ceux qui le regardent.
Et donc Stéphane, ce spectacle Mère au pluriel, il s'inscrit dans le cadre du Festival de Marseille.
Oui, avec ses projets participatifs, sa directrice Marie Didier souhaite l'ouvrir à tous les Marseillais et ceux notamment qui n'osent pas pousser la porte des théâtres.
Pour un grand nombre de personnes, ça peut être aussi parfois la première entrée. Et du coup, c'est un autre accès au spectacle vivant. Et ça, on ne le fait pas tout seul. On le fait avec ceux qui travaillent, ceux qui réfléchissent, ceux qui pensent et ceux qui rêvent aussi la ville.
C'est le cas d'un autre comédien du spectacle, Amar Yasser Iskandar. Il est arrivé de Djibouti à Marseille avec sa mère dans le quartier de la Belle de Mai. Cette pièce, c'est aussi un peu son histoire.
Étant un jeune des quartiers populaires, du quartier de la Belle de Mai, qui est quand même considéré comme le quartier le plus pauvre d'Europe, et donc cette question de la mère et leur place dans la société, je vois ce combat dans les yeux de ma mère, tout simplement.
Valérie Trébor a grandi avec son frère à la Belle de Mai. Leur spectacle est un hommage à leur quartier.
C'est le quartier le plus riche en humanité, en associations qui se battent vraiment contre les discriminations, pour acquérir les droits. Ce quartier a toujours été un quartier rouge. Godin, même Defferre, avant lui, a voulu un peu faire exploser ce quartier, justement, qui était un quartier de résistance. Et ça l'est toujours aujourd'hui.
En 2 heures, ce spectacle gigantesque dresse à la fois le portrait de ce quartier et des mères combattantes qui le font vivre.
Si tu n'es pas
Mère au pluriel dans le cadre du Festival de Marseille au Théâtre de la Criée tout à l'heure à 14 et à 18h ainsi que mardi à 20h et le Festival de Marseille c'est jusqu'au 6 juillet.
France Inter 9h.
Antoine Gignot.
Ce dimanche, à quelques jours du grand oral du bac, nous sommes allés à la rencontre des timides et des orateurs nés, ceux qui bégayent comme ceux qui jonglent avec les mots pour percer les secrets de l'éloquence.
Interception, tous les dimanches à 9h sur Inter.
Vous avez rendez-vous avec votre histoire partout en France et en Europe. Les 13, 14 et 15 juin, venez fêter les Journées européennes de l'archéologie organisées par l'INRAP, Institut national de recherches archéologiques préventives et le ministère de la Culture. Retrouvez tout le programme sur journée-archéologie.eu. journée-archéologie.eu.
Ah ouais, enfin une place.
Ah ça, à mon avis, c'est un peu petit pour toi, ça. Tu sais, là, j'ai vu le créneau, c'est tout un art. Alors peut-être que moi, à la rigueur...
Papa, parce
que
oui, je suis garé.
Tu es garé.
Eh ouais.
T'es bien le fils de ton père, toi.
Découvrez toute l'agilité de la Toyota Aygo Cross. Disponible à partir de 119 euros par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end.
Ah, c'est bien beau de se garer, mais se dégarer...
Toyota Aygo Cross Dynamic LLD, 37 mois, 30 000 km. Premier loyer, 3 990 euros, réservé aux particuliers dans le réseau participant pour toute commande jusqu'au 30 juin. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
France Inter, 7h15.
France Inter, Marion Lourd, le 6-9.
Et il chemine en notre compagnie pour la prochaine demi-heure. Voilà la belle équipe du 6-9. Alain Baraton, Anna Sigalevitch et François-Régis Gaudry. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
François-Régis, quoi de bon dans votre panier du marché ce matin ?
On croque le haut du pavé de la viande.
Dans la main verte, Alain, aujourd'hui.
L'une de vos fleurs préférées, le jasmin.
C'est vrai, avec les renoncules, effectivement. Et puis Anna, de quoi sera-t-il question dans Classic & Co ?
Un élixir d'amour, c'est un opéra participatif pour jeune public.
Un élixir d'amour, ça va très bien avec le jasmin, Alain.
Oh, on est dans le sujet.
Allez, c'est parti.
France Inter. Merci à vous. Le 6-9.
Et comme chaque dimanche, on a le bonheur de faire notre marché avec vous, François-Régis Gaudry. Aujourd'hui donc, chronique carnivore, avec une viande de bœuf aussi rare que réputée.
Oui, Marion, si je vous dis fin, gras, du mézinque.
Bah c'est sûrement réputé, François-Régis, mais pas assez quand même pour arriver jusqu'à mes oreilles ou même mon assiette. Hein.
Le mézinque, c'est le nom d'un terroir bien particulier à l'est du Massif Central, à cheval entre les départements de la Haute-Loire et de l'Ardèche, où existe une tradition multiséculaire d'élevage bovin. Et l'expression fin gras correspond à une méthode singulière d'engraissement des bœufs. Montoux, fin gras du mézinque, désigne depuis 2013 une AOP, appellation d'origine protégée. En quoi cette viande de terroir est exceptionnelle? Je suis allé chercher la réponse au Petit Parisien, un super bistrot du 14e arrondissement de Paris, où j'ai rencontré un boucher du centre de la France en pleine livraison.
Gaby Gauthier, boucher à Clermont-Ferrand et ambassadeur du fin gras du Mézin. Le Mézin qui est une montagne à 1400 mètres aux confins de la Haute-Loire et à cheval sur les plateaux de Haute-Loire et d'Ardèche. Donc ce sont des prairies naturelles où on élève des bêtes qui sont du centre de la France, la Charolaise, la Limousine, l'Aubrac et la Salère principalement, et qui sont nourris l'été avec l'herbe des prairies naturelles, et tout l'hiver, le foin. On a des fleurs, des plantes dans ce foin qui sont en quantité remarquable. Vous avez un goût dans cette viande que vous retrouvez nulle part ailleurs. Cette saison du fin gras du Mézin est autorisée de début février des abattages jusqu'à fin mai, fin des abattages. Donc on peut avoir de la viande environ 6 mois de l'année. Il y a à peu près 70 bouchers, je pense, qui proposent cette viande-là. Ils sont regroupés beaucoup sur le centre de la France, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Drôme.
Bonjour, Arnaud Duhem, restaurateur, propriétaire du bistrot Les Petits Parisiens, avenue Jean Moulin dans le 14e arrondissement de Paris, et Les Petits Princes à Suresnes. Amoureux des beaux produits, dont le fin gras du Mézinc, qui fait partie des 4 restaurants à Paris qui proposent du fin gras du Mézinc. C'est une viande rare, avec une saisonnalité, et surtout un produit d'exception qui nous permet de faire découvrir à nos clients amateurs de viande cette viande d'une finesse exceptionnelle et d'un goût extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'on a acheté 2 arrières de bœuf.
Est-ce qu'on peut aller la voir de plus près, cette bidoche ?
Avec plaisir. Là, on a une côte de bœuf de Limousine qui a été maturée 5 à 6 semaines. Que Stéphane, le chef, vous propose. Huile neutre, plancha, pour créer la réaction de Maillard, des deux côtés. Et puis après, on va la laisser reposer un petit peu. Et c'est une viande qu'on sert volontairement et qu'on préconise à nos clients de prendre bleue ou saignante. Au-dessus, ce serait gâcher le produit. Après, on va passer à la poêle, on va la nourrir au beurre. Pour finir la cuisson, beurre, quelques aromates, peu de romarin, du thym, de l'ail, etc. Très peu. Et puis après, on va la laisser poser, la trancher et la servir comme ça. avec un jus au foin fumé. Voilà.
La côte de bœuf fin gras du Mézin, cuisinée donc dans le bistrot Les Petits Parisiens à Paris, 14e arrondissement. François Régis, c'est une viande rare qui doit donc avoir un certain prix.
Oui Marion, prix constaté chez Gauthier, l'emblématique boucherie de Clermont-Ferrand, située, ça ne s'invente pas, 17 rue de la Boucherie. De 14 euros le kilo de plat de côte jusqu'à plus de 30 euros le kilo pour une côte de bœuf. C'est en moyenne 20% plus cher qu'une viande de bœuf ordinaire, mais c'est le juste prix pour une viande de grande qualité issue d'élevage extensif. Et c'est le juste prix pour assurer un revenu décent aux éleveurs. À l'heure où sont connus les effets délétères d'une consommation excessive de viande rouge sur la planète, mais aussi sur notre santé, mieux vaut manger moins de viande, mais en manger de la meilleure de temps en temps. Mmh. Et le fin gras du Mézinc est une bonne option en ce moment. Effet bœuf garanti.
Et bah bravo François Régis. Toutes les infos sur ce fin gras du Mézinc sont à retrouver sur la page de notre matinale. Et tout à l'heure, à partir de 11h, François Régis, au menu de votre émission, on va déguster.
On est à 6 jours du 21 juin, on fait le plein de recettes simples, colorées, généreuses, en prévision des grandes vacances avec nos amis cuisinières André Zanamira et Keda Black.
On va se régaler, à tout à l'heure.
Le 6-9 sur France Inter.
Et voici venir Alain Baraton, jardinier préféré des auditeurs de France Inter et de nous aussi. Alain, vous allez nous parler du jasmin. Quelle jolie fleur, quel parfum.
Et oui, il est vrai que de toutes les plantes grimpantes, le jasmin se distingue vraiment pour la multitude de ses fleurs et surtout, et vous le savez, Marion, pour le parfum qu'elle dégage. Les botanistes nomment le végétal Jasminum grandiflorum.
C'est
et
joli.
Les jardiniers, jasmin royal, jasmin de grâce. Vous vous doutez pourquoi ? Parce que dans la région, il contribue ou contribuait plutôt à l'élaboration des précieux parfums, ou encore jasmin d'Espagne, même s'il est originaire d'Asie, principalement du Japon et de Chine, si vous souhaitez être précise.
Et il est apprécié pour ses multiples qualités, le jasmin, depuis toujours.
Hein. Et oui, j'ai du mal à quitter Versailles, j'y retourne donc, car sous Louis XIV, eh bien, sachez que le roi en a fait planter en nombre dans les bosquets, ce qui avait pour effet d'embaumer une atmosphère pas toujours très agréable à respirer.
Oui, on se souvient des mœurs de l'époque.
Imaginez dans le parc 36 000 personnes tous les jours en moyenne, et pas une toilette, il y a quand même de quoi être inquiet. Jean de La Fontaine, le grand Jean de La Fontaine, apprécie la plante et loue ses vertus. Jasmin, dont un air doux s'exhale, fleur que les vents n'ont pu ternir.
C'est beau. Louis XV aussi aime cette fleur, Alain.
Le roi demande à son jardinier d'en placer des centaines de pieds près du Petit Trianon, et Marie-Antoinette, 50 ans plus tard, en fera de même. Le jasmin a séduit la monarchie, il séduit aussi l'Empire, comme au château de la Malmaison, où l'impératrice Joséphine en cultive dans les serres. Même la Révolution, vous voyez, tout le monde aime la fleur.
Ah oui.
Même la Révolution apprécie le jasmin. Il est célébré dans le calendrier républicain le 26 prairial, soit comme aujourd'hui. Oh, quel hasard !
Quel hasard !
Le 14 juin, et par les Tunisiens, qui ont parfois donné le nom de la fleur à leur révolution, la révolution de la dignité, en 2011.
Mais
le jasmin, qu'est-ce que c'est beau !
Oui, est-ce qu'il y en a encore à Versailles ?
Oui, il y en a. Il y aura même l'an prochain, enfin je l'espère, toute une tonnelle en vie de jasmin, parce qu'on va travailler avec un couturier, un grand couturier talentueux qui va faire acte de mécénat, je n'en dis pas davantage encore, mais une galerie près du Petit Trianon va être recouverte de dizaines de pieds de jasmin, de quantités, de variétés différentes, mais les senteurs depuis quelques années déjà reviennent à Versailles grâce aux plantations de quantités de plantes dites odoriférantes.
On a hâte de voir et de sentir ça. Alain, vous vouliez nous parler de la pimprenelle aussi, puisque c'est Marc qui vous a écrit pour vous poser une question. Est-ce qu'elle est facile à cultiver, la pimprenelle ?
Vous êtes beaucoup trop jeune pour vous souvenir de pimprenelle et Nicolas.
Ah ben oui, je suis trop jeune, effectivement.
Je le savais. Quand on était enfant, quand j'étais petit, à la télévision, il y avait Nounours qui venait tous les soirs dire au revoir aux petits, bonne nuit
les petits.
Ben oui.
Vous faites très bien, Nounours.
Mais je le fais très bien, je le fais aussi très bien. Le Père Noël, je vous le ferai un jour. Et parmi les deux principales vedettes de ce petit programme, les deux marionnettes, il y avait Pimprenelle et Nicolas. Et Pimprenelle, est devenu un prénom très connu et très réputé à l'époque. La pimprenelle, c'est une petite plante aromatique vivace, très jolie, qui se termine par des petits plumets. Elle était très appréciée autrefois, pour ses propriétés, enfin ses supposées propriétés médicinales. Pour vous dire, si elle est facile à cultiver, on fait très simple. On la trouve partout en Europe, partout où l'homme n'a pas le temps de cultiver, le long des chemins, sur les prairies abandonnées, etc. Il n'y a pas plus facile à cultiver que la pimprenelle, mais il est vrai que d'en planter dans son jardin, il y a un petit côté plante confortable que j'aime beaucoup. Un petit épi blanc, une plante légère, cultivons la Primpenelle, ça ne peut pas faire de mal.
Oui, alors on arrive à la fin déjà, et c'est trop court le temps qu'on passe avec vous Alain, mais quand même, cette question d'une aumônier, Marion, l'herbe à chat attire-t-elle vraiment les chats? Oui, non?
Oui, oui, et tous les chats, y compris ceux des voisins, avant d'en mettre chez vous, réfléchissez.
C'était la main verte, merci Alain Baraton.
Le 6-9 sur France Inter.
À 7h24, c'est l'heure de Classic & Co. avec vous, Anna Sigalevitch. Et ce matin, encore plus que d'habitude, vous nous séduisez avec un opéra participatif jeune public. Ça s'appelle un élixir d'amour, c'est le titre, d'après l'œuvre de Donizetti.
Oui, alors il y a des représentations pour les scolaires et d'autres tout public de cet élixir interprété par une équipe de jeunes artistes mise en scène par Manuel Renga avec le chef Simon Proust à la tête des frivolités parisiennes. C'est un projet proposé par le Théâtre des Champs-Élysées depuis plusieurs années maintenant. Des œuvres comme Carmen, La Cenerentola, La Flûte Enchantée et donc cette année L'Élixir d'Amour sont données dans des versions adaptées, raccourcies et traduites en français pour des enfants de primaire et collège qui, en plus de découvrir le grand répertoire revisité, sont invités à participer activement à la représentation.
D'où le terme opéra participatif. Ça consiste en quoi, Anna, concrètement ?
Eh bien, ça consiste à d'abord étudier des morceaux au préalable, soit dans un cadre scolaire avec le matériel mis à disposition des enseignants, soit à la maison avec les tutos disponibles sur le site du théâtre. Et puis, pendant le spectacle, les enfants sont conviés par le chef qui se retourne vers la salle à entonner plusieurs airs.
Alors, l'élixir d'amour met en scène le jeune et naïf villageois Nemorino, amoureux de la capricieuse Adina.
Oui, qui ne cesse de les conduire. Donc, quand débarque un charlatan ambulant, le docteur Dulcamara, Nemorino lui achète un philtre d'amour. Alors le filtre d'amour est en fait une bouteille de Bordeaux qui plonge Nemorino dans un état d'indifférence face à sa belle, l'incitant à accepter la demande en mariage d'un sergent bellâtre nommé Belcor. Entre-temps, on apprend que le riche oncle de Nemorino vient de mourir et de lui léguer sa fortune, ce qui attire toutes les jeunes filles du village et rend jalouse Adina. C'est le moment de l'air plus célèbre, una furtiva lacrima, la furtive larme qu'elle laisse couler sur ses joues, convainquant le jeune homme de l'amour qu'elle lui porte.
Une furtive larme a brillé dans ses yeux.
C'est dans une usine de sirop dans les années 30 que le metteur en scène Manuel Renga a choisi de situer cet élixir. Les rouages des temps modernes de Charlie Chaplin et l'atmosphère féerique de Charlie et la chocolaterie ayant inspiré les décors de l'opéra avec ses alambics fumants et ses rangées de bouteilles de sirop. Alors je n'ai pas encore assisté en vrai à cette production, mais j'en ai vu d'autres et je peux vous dire que c'est incroyablement joyeux et vivifiant de voir le théâtre des Champs-Élysées rempli d'enfants qui m'avaient dit que c'était pour eux, je cite, une expérience palpitante leur donnant très envie d'y retourner.
À Un élixir d'amour d'après Donizetti. C'est un opéra participatif jeune public qui se joue jusqu'au 25 juin au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Merci Anna et merci à Anne Weinfeld pour la réalisation.
France Inter présente
le podcast Espion, une histoire vraie.
Stéphanie Duncan.
Une série de portraits d'agents secrets pour plonger dans les eaux troubles de l'histoire. De Paris à New York, en passant par Moscou, Buenos Aires ou Téhéran, suivez les aventures fascinantes de ces hommes et de ces femmes au destin hors du commun.
Espion, une histoire vraie.
Retrouvez tous les épisodes sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Magali Rochereau, toujours des orages aujourd'hui, mais c'est la fin de la vigilance orange.
Oui Marion, ce matin entre la Nouvelle-Aquitaine et le Grand Est, c'est un ciel nuageux avec des pluies orageuses de la Nouvelle-Aquitaine au nord de l'Auvergne. Quand partout ailleurs c'est couvert, mais le temps reste sec, accompagné d'une tramontane à 60 km/h dans le sud tout au long de la journée et de températures toujours douces à votre réveil. 22-23 degrés à l'avant des orages dans le sillon rhodanien et le long de l'arc méditerranéen. À Paris, il fait 18. Cet après-midi, les températures sont à la baisse. Globalement, météo France attend 21 à 24 degrés sur le pays et toujours plus dans la région sud-est. Puis les orages éclatent en région Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté et Grand Est, avec des risques qu'ils soient forts en Rhône-Alpes, notamment au-dessus de l'agglomération lyonnaise à surveiller.
Merci Magali Rochereau et merci à vous de vous réveiller à l'écoute de France Inter. Il est 7h30. Le journal, Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour Marion, bonjour à tous. Chasse à l'homme en cours aux États-Unis. Des centaines de policiers recherchent le suspect du meurtre d'une élue locale démocrate du Minnesota. Emmanuel Macron au Groenland ce dimanche, porteur d'un message de solidarité pour ce territoire autonome du Danemark, convoité par Donald Trump. Comment notre environnement bouleverse-t-il nos systèmes hormonaux? Médecins et chercheurs proposent la création d'une spécialité médicale, un médecin environnementaliste. Le bac philo, c'est demain matin 8h. La philo, la grande angoisse des candidats, nous dirons des élèves de terminale.
À 7h50 sur France Inter, peinture, photo, vidéo, art plastique, on brouille les repères avec la directrice du musée de l'Orangerie à Paris. Claire Bernardi nous présente une expo belle, révélatrice et politique autour de ses œuvres, au contour pas si net, dans le flou, une autre vision de l'art de 1945 à nos jours.
France Inter. Chasse à l'homme aux États-Unis, le tireur, toujours en fuite, a tué hier matin une élue locale démocrate et son mari. Il avait blessé avant cela à leur domicile un sénateur démocrate et son épouse. Opérés, ces derniers sont sortis d'affaires. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a qualifié un assassinat à motivation politique.
Nous perdons de grands leaders et je perds de bons amis. C'est un acte de violence politique. Un discours de paix est le socle de notre démocratie. On ne résout pas nos différences avec la violence ou les armes. Dans l'État du Minnesota, dans les dernières semaines et dans les États alentours, nous nous sommes assis, nous avons débattu, nous nous sommes serrés la main, nous sommes parvenus à des compromis et nous avons servi l'État du Minnesota ensemble. Cet acte tragique doit tous nous faire réfléchir. La démocratie et le débat, dans la maison du Congrès, à l'intérieur des maisons, dans les écoles, doivent nous permettre de dépasser nos différences paisiblement et faire évoluer la société vers quelque chose de meilleur.
Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, un suspect donc toujours en fuite, mais qui est identifié, Loïc Loury.
Vance Bolter, 57 ans, chapeau de cow-boy sur la tête, c'est la dernière image connue du suspect, enregistrée hier par une caméra de sécurité quelques heures après les attaques. La nuit précédente, c'est lui qui se serait introduit, déguisé en policier, chez un élu démocrate du Minnesota, le blessant grièvement par balle, lui et son épouse, avant de parcourir quelques kilomètres pour aller assassiner une autre élue du même parti, Melissa Hortman, chez elle avec son mari. Quelques échanges de tirs avec la police plus tard, Bolter était en fuite, laissant derrière lui un véhicule dans lequel les autorités ont retrouvé une liste de près de 70 cibles potentielles, dont les deux élus visés, mais aussi les adresses de cliniques d'avortement. Un individu armé et dangereux, affirme la police, et dont les motivations sont toujours vagues, dans un climat de violence politique de plus en plus étouffant aux États-Unis. New York, Loïc Loury, France Inter.
Troisième jour de guerre entre l'Iran et Israël, la spirale meurtrière s'accélère.
8 morts, des dizaines de blessés et au moins 35 disparus, c'est ce qu'annonce Olivier Rafovitz, le porte-parole de l'armée israélienne à la suite de tirs de missiles iraniens ce matin sur la région de Tel Aviv ainsi que l'ouest de Jérusalem. Téhéran a lancé donc une nouvelle salve de missiles sur la région. Dans ce contexte, il n'y aura pas de pourparlers aujourd'hui au Sultanat d'Oman. Allié d'Israël, Donald Trump avait appelé vendredi l'Iran à conclure un accord avec les États-Unis sur son programme nucléaire. Les discussions devaient avoir lieu ce dimanche à Mascate. Depuis Istanbul, notre correspondante Marie-Pierre Véro.
Le sultanat d'Oman, comme les autres États dans la région et au-delà, répète pourtant que la diplomatie et le dialogue restent la seule voie vers une paix durable. Mais l'heure est toujours à la guerre. Ces discussions sont vides de sens, selon l'Iran, qui ne se voit pas dialoguer quand Israël continue à pilonner méthodiquement ses infrastructures et à faire plusieurs dizaines de victimes. Dialogue impossible en outre, selon la diplomatie iranienne, avec les États-Unis qualifiés de plus grands soutiens et complices de l'agresseur. Les États-Unis que le président iranien accuse de malhonnêteté. En un sens, Benjamin Netanyahou a gagné, lui qui voyait ces discussions d'un très mauvais œil, lui qui entend réduire à néant la menace iranienne, qui veut anéantir son programme nucléaire. Reste une question, comment sortir de cette spirale infernale d'attaques et de représailles? Le président turc Erdogan sonne l'alarme, il appelle à arrêter d'urgence Israël, qui, met-il en garde, cherche à entraîner toute la région dans le feu.
Emmanuel Macron a appelé le président iranien Massoud Pezeshkian pour lui demander de revenir rapidement à la table des négociations sur le nucléaire. Le président de la République française, qui a aussi exigé la libération immédiate de Cécile Kohler et Jacques Paris, otages du régime iranien depuis plus de 3 ans. À Los Angeles, la manifestation anti-Trump vire à l'affrontement avec la police. Pendant plusieurs heures, des milliers de personnes à Los Angeles ont affiché dans le calme et en musique leur défiance envers le président américain. Puis, intervention de la police qui a repoussé les foules, gaz lacrymogène, grenades assourdissantes. Et à Salt Lake City, selon la police, il y a eu un blessé grave à la suite de tirs lors de cette manifestation. Emmanuel Macron qui s'invite aussi dans la bataille géopolitique du Groenland. Menacé d'annexion par Donald Trump depuis des mois, le président français en route pour le sommet du G7 au Canada fait une halte ce dimanche sur le territoire danois d'outre-mer pour une visite éclair dans cette île arctique stratégique convoitée par le président américain Louis Baudet.
Au Groenland au moins, Emmanuel Macron sait qu'il est attendu. Impuissant à peser sur le cours des événements au Moyen-Orient, le président français se rend dans le territoire arctique parce qu'il y est invité et il y sera certainement bien reçu aux antipodes de l'accueil glacial réservé fin mars au vice-président américain J.D. Vance. Et c'est bien à l'Amérique trumpiste que le message est adressé. Le Groenland n'est pas à prendre et la prédation n'est pas une option, a prévenu cette semaine Emmanuel Macron, premier chef d'État étranger à se rendre sur l'île depuis les menaces d'annexion de Donald Trump, qui veut prendre possession de ce territoire riche en ressources minières et hautement stratégique à la croisée des nouvelles routes maritimes ouvertes par le réchauffement climatique. Emmanuel Macron va y survoler un glacier alors qu'au Groenland, la glace a fondu fin mai 17 fois plus vite que la moyenne. Visite ensuite d'une station hydroélectrique avant un entretien politique à bord d'une frégate porte-hélicoptère avec les premiers ministres groenlandais et danois. Les trois ne se quitteront pas de la journée, précise l'Élysée.
Louise Baudet, condamnée pour corruption dans l'affaire des écoutes, Nicolas Sarkozy perd officiellement sa Légion d'honneur. Il ne peut plus porter sa barrette rouge au revers de sa veste. Le retrait de la Légion d'honneur est automatique quand un récipiendaire est définitivement condamné pour un crime ou qu'il écope d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 1 an ferme. Sa condamnation à 1 an de prison ferme était devenue définitive. C'est le deuxième chef d'État français privé de cette distinction après le maréchal Pétain.
Pollution plastique, changement climatique, perturbateurs endocriniens, comment notre environnement bouleverse-t-il nos systèmes hormonaux?
Et quelles conséquences sur notre santé, sur l'infertilité par exemple? Autant de questions au programme des journées annuelles organisées par la Société française d'endocrinologie. De plus en plus de médecins et de chercheurs proposent la création d'une spécialité médicale, un médecin environnementaliste qui pourrait être Victor Delandre à la croisée de toutes ces réflexions.
Des centaines de substances toxiques présentes dans notre environnement produisent déjà des ravages sur notre organisme, explique Albert Bekkers, professeur honoraire d'endocrinologie à l'Université de Liège en Belgique.
Une baisse du taux de reproduction, une augmentation de l'obésité, donc une infertilité chez l'homme comme chez la femme, une diminution du QI dans certaines études chez les patients qui ont été exposés pendant la vie in utero et un certain nombre de cancers. Je pense qu'on en effleure à peine toutes les conséquences.
Le problème, c'est d'établir une corrélation entre ces ces substances et la survenue de ces pathologies. De nombreuses études doivent être menées et pour mieux prendre en charge les patients, ces endocrinologues souhaitent la création d'une spécialité médicale environnementale.
Qu'on puisse aller trouver un médecin environnementaliste comme on peut trouver un gynécologue ou un endocrinologue ou un cardiologue. Donc ces médecins seraient formés spécialement et pourraient guider les hôpitaux, les autres services pour par exemple prendre le maximum de précautions pour ne pas mettre en contact les femmes enceintes avec des perturbateurs endocriniens ou pendant l'enfance, etc. Donc il y a toute une série de dispositions qu'on pourrait prendre par rapport à la population.
La santé environnementale doit être une priorité de santé publique dans les prochaines années, assure le Conseil national de l'Ordre des médecins, pas forcément enclin pour autant à ouvrir une spécialité à part entière.
Victor Delande, c'est l'épreuve reine du bac, mais sans doute aussi la plus redoutée, la philo. Ils sont 533 640 candidats, bac général et technologie, qui vont démarrer les épreuves écrites demain à 8h. Au choix, 4 heures de dissertation ou de commentaires de texte. Alors, est-ce que la philo fait peur ? Sonia Princé a posé la question à ses élèves de terminale.
Ambre est catégorique. L'épreuve qu'elle appréhende le plus...
Ah, philosophie. Voilà, philosophie parce que franchement, toutes les notes qu'on a eues l'année, des fois on avait 15, des fois 11, alors des fois on avait en dessous de la moyenne. Et puis, en fait, on ne sait pas si le correcteur va bien aimer comment on écrit ou bien alors s'il ne va pas aimer. Et du coup, on aura une mauvaise note.
Philosophie, il y a aussi une part de chance, quoi. C'est la seule qu'on ne peut pas vraiment préparer bien à fond.
Antoine, au profil plus scientifique, s'est pourtant entraîné.
Je sais qu'il y a des sujets qui peuvent être un peu alambiqués. Là, j'ai vu les sujets d'Amérique du Nord qui sont déjà tombés. Et il y en avait un qui était un peu rude. C'était « Suffit-il de faire son devoir pour être juste ?» Notre professeur de philosophie a un peu de mal à nous expliquer comment bien répondre.
Mais certains élèves croient en leur chance. Marwa, par exemple, est plutôt confiante.
La philo, faut juste avoir l'esprit critique. Parce que le prof, il va voir notre manière de penser. On peut avoir la moyenne si on réfléchit bien. Je sens que je peux avoir la moyenne.
La philosophie est coefficient 8 sur 100 en filière générale et 4 sur 100 en filière technologique. Les années précédentes, la note moyenne des candidats en philo était d'environ 13 sur 20.
Alors on ne dira qu'une chose, hein. Bonne chance.
Bonne chance. Et le portrait du bac, justement, on va le faire dans la chronique. On va en reparler avec Jean-Philippe Ballas qui est déjà avec nous en studio. Merci pour ce journal, Laurence Thomas. À suivre aussi, ce n'est pas Tom Cruise, mais il a une mission presque impossible. Le patron du Parti Socialiste est dans la chronique politique.
À l'écoute des entreprises avec Harmonie Mutuelle. La santé des entrepreneurs et de leurs équipes est essentielle à la performance de l'entreprise. Harmonie Mutuelle lance le mouvement de l'éco-santé. Jérôme Decrillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur prévention et services chez Harmonie Mutuelle. Alors, qu'est-ce que l'éco-santé ?
Eh bien, c'est une nouvelle façon d'aborder la santé. C'est notamment préserver la santé mentale et physique des dirigeants et des salariés pour réduire l'absentéisme et renforcer l'engagement.
Et quelles solutions concrètes proposez-vous ?
On agit de façon préventive plutôt que curative, avec par exemple des formations et des actions de prévention adaptées pour maintenir les salariés en bonne santé.
C'est un vrai bénéfice pour les entreprises ?
Bien sûr. Avoir un patron et des équipes en bonne santé, c'est moins d'arrêts de travail et donc une meilleure performance dans l'entreprise.
Et pour en savoir plus,
rendez-vous sur harmoniemutuelle.fr.
Merci Jérôme.
Ah ouais, enfin une place.
Ah ça, à mon avis, c'est un peu petit pour toi ça. Tu sais là, c'est vu le créneau, c'est tout un art. Alors peut-être que moi, à la rigueur...
Papa,
parce que
je suis garé.
Tu es garé.
Eh ouais.
T'es bien le fils de ton père, toi.
Découvrez toute l'agilité de la Toyota iGoCross. Disponible à partir de 119 euros par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end.
Ah c'est bien beau de se garer, mais se dégarer...
Toyota iGoCross Dynamic LLD, 37 mois 30 000 km. Premier loyer, 3 990 euros, réservé aux particuliers dans le réseau participant pour toute commande jusqu'au 30 juin. Détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer ?
Joe Nesbo, le maître du thriller scandinave, est de retour avec deux polars à couper le souffle. Retrouvez Harry Hall dans Eclipse Total en folio et découvrez les maîtres du domaine en série noire.
7h42.
Le 6-9 sur France Inter.
L'heure de l'édito politique. Bonjour Ludovic Vigogne.
Bonjour à tous.
Réélu premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure va délivrer ce matin sa feuille de route lors du congrès de son parti à Nancy. Avec quelle marge de manœuvre, Ludovic ?
C'est à 11h15 qu'Olivier Faure prendra tout à l'heure la parole. Le député de Seine-et-Marne commence à être rodé à ce genre d'exercice. C'est en effet la quatrième fois qu'il enfile le costume de premier secrétaire du PS. Élu à ce poste en 2018, il y a été reconduit en 2021, en 2023 et en enfin il y a 10 jours, au terme d'une campagne qui a tourné en référendum pour ou contre lui. Sa victoire n'a néanmoins été que ric-rac, avec seulement 50,9% et 250 voix d'écart, face à son rival Nicolas Maillet-Rossignol, le maire de Rouen. Mécaniquement, cette fracture en deux d'un parti qui n'a compté que 25 000 votants lors de son processus électoral interne fera qu'Olivier Faure sera un premier secrétaire qui n'aura pas les coudées franches, puisque vous posiez la question, Marion. Il aura pourtant à résoudre deux équations qui peuvent faire exploser son camp.
Alors, quelle sera la première équation ?
Ce sera de décider du sort du gouvernement de François Bayrou. Rien que ça. Cet hiver, lors de l'examen des textes budgétaires, Olivier Faure avait dû se rallier à ceux qui défendaient la non-censure du Premier ministre, emmené notamment par son ennemi, François Hollande. Mais depuis 10 jours, lors de chacune de ses interviews, le premier secrétaire du PS fait désormais peser la menace d'une censure prochaine, rappelant notamment qu'il se situe dans l'opposition. Or, le sujet pourrait être à l'ordre du jour dès le milieu de la semaine qui vient, avec la fin du conclave sur les retraites. Si le MEDEF et la CFDT, dont le PS est très proche, ne topent pas, ou si au contraire, en cas d'accord, François Bayrou ne soumet pas celui-ci au Parlement, contrairement à l'engagement que les socialistes lui ont soutiré cet hiver, la question du dépôt d'une motion de censure ne manquera pas d'être sur la table et à coup sûr, elle provoquera de vifs débats internes.
Et en plus de ça, il y a une deuxième équation compliquée pour Olivier Faure.
C'est celle de la désignation du candidat à la prochaine présidentielle, alors que le PS n'aura pas le droit à l'erreur après les 1,75% d'Anne Hidalgo en 2022. Durant sa campagne, Olivier Faure l'a dit et répété. S'il n'y aura plus aucun accord électoral avec Jean-Luc Mélenchon, il souhaite en revanche qu'il n'y ait qu'un seul candidat sur la ligne de départ de 2027 qui représente le reste de la gauche, de François Ruffin à Raphaël Glucksmann. Comment le désigner tandis que les candidatures fleurissent, c'est par exemple le cas de Clémentine Autain qui annonce ce matin la sienne dans la Tribune Dimanche. Le premier secrétaire du PS reste évasif sur le sujet, mais il n'est pas spontanément fan d'une primaire. Reste qu'aujourd'hui, sa position demeure est très contesté, pardon. Olivier Faure, qui se revendique du socialisme écologique plutôt que de la social-démocratie, doit affronter ceux qui, eux, défendent ce courant de pensée et qui refusent de se voir représentés par une candidature commune avec laquelle ils auraient trop de divergences idéologiques. Parmi eux, il y a à l'intérieur du parti François Hollande, qui en réussissant son retour à l'Assemblée nationale il y a un an, a réussi son retour dans le jeu. Et à l'extérieur, Raphaël Glucksmann, qui fait la course en tête dans les sondages. Et puis, beaucoup soupçonnent aussi Olivier Faure, 56 ans, de vouloir lui-même se lancer dans la course à l'Elysée. Voilà, qui ne va pas aider à la sérénité, alors que les discussions s'annoncent très agitées.
Merci Ludovic Vigogne, c'était l'édito politique. J'ajoute que dans la Tribune Dimanche, vous avez aussi recueilli les confidences de François Bayrou.
Tout à fait.
Et c'est à lire.
Qu'il va affronter son moment Mendès.
Le moment Mendès, ça c'est un bon concept d'éditorialiste politique. Il est 7h46 sur France Inter. On va en reparler, c'est à vous Jean-Philippe Ballas, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour tout le monde.
On en parlait dans le journal de Laurence Thomas, près de 725 000 candidats prêts à plancher sur leur copie à partir de demain, ce sont les épreuves du bac.
Oh mais tu sais, aujourd'hui le bac ça sert plus à rien, d'ailleurs tout le monde l'a, et je peux te dire que de mon temps c'était quand même autre chose.
Ah ouais.
Voilà, discussion classique en 2025. Écoutez plutôt l'intitulé de cette émission radiophonique en mars 1951.
Faut-il supprimer le baccalauréat ? Nous allons donner la parole aujourd'hui aux adversaires et aux défenseurs de cette institution.
Bah oui, déjà, il y a 74 ans, on parlait du bachot en perte de vitesse, de valeur, de prestige. À l'époque, c'est le sénateur Michel Debré qui veut changer le système. 30 secondes d'exposé.
Il n'est pas besoin de dire qu'aujourd'hui, le fait d'être bachelier ne correspond plus dans l'opinion générale à la culture qu'il était censé représenter il y a encore 50 ans. Enfin, le baccalauréat était un titre social qui correspondait à la possibilité d'acquérir certaines fonctions ou même une certaine considération dans le monde. Et j'ajouterai en terminant, cette certaine ambiance à l'examen où le hasard a souvent trop de poids, alors que c'est un grave examen et le premier examen de la jeunesse intellectuelle, il est bon, semble-t-il, qu'on envisage de le réformer très profondément.
Intéressant, Michel Debré parle du hasard le jour de l'examen. Il aurait sans doute été partisan de la part de contrôle continu, 40% désormais de la note finale.
Ah mais Jean-Philippe, le taux de réussite au bac en 1951, est-ce qu'il était déjà élevé ?
Bah pas vraiment, Marion. La proportion de bacheliers dans une génération en ce temps-là, cette proportion est légèrement supérieure à 5%, mais c'est vrai, elle ne va ensuite cesser de grimper.
Oui.
Sauf que le diplôme a ses défenseurs face à Michel Debré. Voici le sénateur Georges Lamousse avec un premier argument qu'on entend toujours en 2025.
Si le baccalauréat a perdu sa couronne, ce n'est pas parce qu'il a perdu sa qualité, c'est plutôt parce qu'il s'est démocratisé.
Il est tout à fait naturel qu'on n'éprouve pas le sentiment de l'oiseau rare en face d'une catégorie qu'on trouve maintenant à chaque pas. Vous dénoncez également la part que joue dans cet examen la chance. Mais je vous répondrai qu'il y a du hasard et de la chance comme il y en a partout dans la vie. Le baccalauréat, c'est déjà la belle aventure, non pas tant pour la victoire qu'on espère, mais pour le risque qu'on y court.
Ah, la belle aventure du baccalauréat comme un rite initiatique bien avant Parcoursup. Au passage, vous noterez la qualité des joutes verbales, le langage châtié en 51, moi j'adore. Ainsi que cet argument massu, qui lui aussi a toujours cours aujourd'hui, par le député Charles Viatte.
J'ai posé récemment à un élève de mathématiques élémentaires la question brutale. Êtes-vous pour ou contre la suppression du baccalauréat ? Sa réponse a été immédiate. Il faut le garder parce que les élèves, permettez-moi l'expression, ne ficherait plus rien s'il n'y avait pas la sanction de l'examen.
Voilà qui est dit. Alors bon courage aux lycéennes et lycéens qui nous écoutent. J'avoue à titre personnel que mon vieux cœur de père battra un peu plus fort la semaine prochaine.
Oh, ça va bien se passer, Jean-Philippe Ballas. On va en reparler. Merci beaucoup. Il est 7h49.
Le 6-9. Marion Lourd. Sur France Inter.
Et notre invité ce matin va peut-être changer notamment votre vision des photos ratées. Vous savez, ces clichés attrapés à la volée qu'on n'ose pas montrer parce qu'ils sont flous. Ils pourraient tout aussi bien avoir leur beauté particulière, être révélateurs de quelque chose et se retrouver, par exemple, dans la collection du réalisateur Sébastien Lifshitz. C'est l'une des œuvres qu'on peut voir en ce moment dans une exposition pleine de grâce qui est en ce moment donc au musée de l'Orangerie à Paris. Bonjour Claire Bernardi.
Bonjour.
Vous êtes directrice du musée de l'Orangerie, commissaire également de cette exposition. Merci d'être avec nous ce matin pour cet exercice pas forcément facile en radio, de nous donner à voir cette expo qui a un concept très original, une autre vision de l'art de 1945 à nos jours, avec le flou comme clé de lecture. Alors je dis 1945, mais cette esthétique du flou, elle démarre bien avant. Et puis d'ailleurs, on le voit hein, au sein même de l'exposition, avec par exemple un paysage du Britannique Turner, et puis un exemplaire des nymphéas de Monet. Ça, c'est un tableau qui a véritablement marqué un tournant en matière de flou.
Tout à fait, le flou existe dans l'art depuis bien longtemps. On pourrait même remonter à la Renaissance italienne avec ce sfumato, cette vapeur, ce dessin vaporeux que l'on voit autour des formes des la peinture ou de Léonard de Vinci par exemple. Mais le point de départ de cette exposition, c'était de regarder à nouveau frais, je dirais, de passer du temps devant les grandes décorations que Claude Monet a peint à la fin de sa carrière, les nymphéas. Et quand on regarde ce grand décor, ces nymphéas peints dans le jardin de Giverny par Monet dans les dernières décennies avant sa mort, on voit cette grande étendue d'eau et un impensé finalement, je me suis rendu compte, est apparu, c'est que tout était flou et qu'on ne le disait pas.
On ne le dit pas, on parle quand même de sa vision, mais il y a autre chose derrière le flou, sa vision qui baissait. Et puis il y a une réponse à ce tableau de Monet dans l'exposition, une très belle réponse, c'est un halo, un jet d'encre bleue sur toile qui est signé Vincent Dulhomme, une sorte d'étendue floue bleue au centre d'un fond blanc avec des contours très indéterminés. Ce tableau, il date de 2024, il s'appelle « Hommage à Monet ». En quoi est-ce que c'est une réponse aux œuvres de Monet dont vous parliez ?
Ce tableau fait partie d'un ensemble d'œuvres très contemporaines qui, au sein de l'exposition, montrent à quel point les nymphéas sont toujours regardés aujourd'hui par les artistes. Et finalement, ce halo lumineux pour lequel on n'arrive pas à distinguer la forme, en fait, c'est finalement une réponse au fait que tout est instable. Que finalement, aujourd'hui, comme au moment où Monet a peint ses nymphéas, on est dans un monde où l'instabilité qui règne nous donne envie de faire le point. Finalement, on a toujours cherché à faire le point, à mettre au point la mise au point. Finalement, ce terme presque technique de la vision est quelque chose qui nous vient assez facilement quand on use du langage. On essaie de faire le point, de mettre au point dans notre. On a une sorte de vision cartésienne du monde que les artistes nous amènent à dépasser. Et c'est ce que veut montrer cette exposition.
Et là, vous nous obligez justement à ne pas faire cette mise au point. D'ailleurs, il y a vraiment un effet presque physique. Au sein de l'exposition, on se sent même parfois happé par certains tableaux. Je pense au tableau à la toile de Rothko qui est là, mais il y en a d'autres. Il y a cette espèce de cible. Il y a un effet physique du flou.
Il y a un effet très immédiat sur la perception, et c'est cet effet physique que nous souhaitions aussi mettre en avant dans l'exposition. C'est une exposition qu'on expérimente. Alors c'est vrai qu'à la radio, du coup, je vais essayer de vous en faire part en partie, et puis venez voir l'exposition. Quand on passe d'une salle à l'autre, il y a cet effet, j'allais dire, presque de déstabilisation. On est devant des images qu'on a du mal à décrypter, mais qui aussi nous atteignent presque physiquement, presque nerveusement.
Oui.
Et avec mes co-commissaires, avec Emilia Philippot et puis Juliette Degène qui nous a rejoint dans l'aventure, nous avons choisi œuvre par œuvre, cette avancée, j'allais dire, dans une aventure qui est celle de la perception floue que nous propose les artistes.
Vous parlez de cette expérience, de cet effet physique du flou. L'expo, elle est organisée en différents thèmes. Et entre les différentes salles, vous nous faites expérimenter le flou. Vous nous mettez dans le flou parce qu'il y a des espèces de toiles, un peu une sorte de tulle qui fait que nous distinguons les visiteurs, les autres visiteurs, même dans le flou.
Oui, la scénographie participe de cette aventure, j'allais dire, et que le choix des scénographes qui ont travaillé avec nous sur l'exposition a été fait vraiment par leur très bonne appréhension de la façon dont on cherchait à traiter le thème. Et c'est vrai que de ne percevoir qu'une partie des œuvres que nous allons voir ensuite nous donne envie d'aller un peu plus loin. Et c'est aussi un propos général dans l'exposition, le fait qu'il nous faut du temps pour voir les œuvres. Qu'il faut s'arrêter devant chaque œuvre, il faut contempler pour essayer d'en savoir un peu plus et de comprendre un peu plus ce qu'on a devant les yeux.
Alors, il y a des techniques très différentes pour faire du flou. Je pense à Paul Verret de Claudio Parmigiani, qui est un peintre qui peint, qui utilise une technique de feu pour imprimer en quelque sorte la trace de ses étagères, c'est difficile à décrire, sur le mur. Il laisse brûler et puis il reste la suie qui fait la trace des étagères sur le mur. Je pense aussi à cet artiste Philippe Cognier qui utilise la cire et puis qui passe le fer à repasser pour brouiller le dessin d'immeuble qu'il avait fait. Et puis ça existe en sculpture aussi. Par exemple, on a la surprise, en tout cas pour moi c'était une surprise, de croiser un marbre de Rodin avec des figures qui ont l'air de surgir du bloc en fait.
L'exposition souhaitait montrer à quel point le mélange des genres et des médiums fait partie en fait de cette esthétique du flou. Et on se dit que la sculpture c'est quelque chose de complètement opposé à cette idée de l'indécision et de l'indéterminé. Et finalement, Rodin en sculpture, comme Medardo Rosso, peut-être moins connu, qui est un sculpteur italien qui, au moment de l'impressionnisme, fait une sorte d'impressionnisme en peinture, en sculpture aussi, interroge la limite entre la forme pleine et l'espace qui est autour. Et dans ce Rodin, par exemple, on voit à quel point on peut jouer des pleins et des vides pour essayer de jouer sur l'indistinction de la forme.
Et ce flou, il permet aussi, il est politique, hein, il permet de montrer des choses qu'on ne veut pas voir, par exemple. Je pense au tableau de Myriam Kahn de 2019, Das Schöne Blau, Le Beau Bleu. On voit des corps roses, qui sont ceux de migrants, qui s'estompent dans l'eau bleue. Ou alors, il y a une photo d'une rescapée du génocide rwandais aussi, qui est saisie par Alfred Ojar. Racontez-nous l'histoire de cette photo.
C'est une photo absolument poignante, qui a la caractéristique d'être extrêmement forte esthétiquement et très très belle, avec des couleurs incroyables.
Couleurs magnifiques.
C'est une photo de très grand format. Volontairement, Alfred Ojar a choisi un format monumental. La figure en fait de cette jeune fille nous dépasse et elle nous tourne le dos. Elle est complètement floue. Elle part un peu plus loin. Et quand l'artiste en fait a pris cette photo presque à la volée, à un moment où cette jeune femme qui avait été victime du génocide n'arrivait pas à parler. Et finalement, l'image remplace.
Et elle s'en va, elle lui tourne le dos, elle s'en va.
Elle s'en va, elle lui tourne le dos. Et finalement, c'est un moment pris après des heures et des heures de travail, des années de travail sur le Rwanda chez Alfred Ojar. On voit que cette image a l'épaisseur du temps passé à essayer de comprendre un phénomène. Et en même temps, c'est une image qui marche dans l'instantané et justement dans ce trouble du moment de la guerre.
Et Claire Bernardi, dans quel état d'esprit vous espérez laisser les visiteurs à la fin? Est-ce que vous espérez nous laisser dans le flou ou avec une vision des choses un peu plus nette en sortant de cette exposition au musée de l'Orangerie?
Ce que nous espérons vraiment, c'est que les visiteurs ressortent avec avec ce trouble presque ce trouble profond que les artistes ont ressenti en créant ces œuvres floues. Il ne s'agit pas d'aller y voir plus net, mais d'essayer de comprendre pourquoi on utilise le flou et qu'est-ce qui, dans ce monde aujourd'hui, et c'est vrai que c'est une exposition aussi profondément politique, qu'est-ce qui fait que nous essayons de naviguer dans cette instabilité. Et c'est Mircea Cantor, l'artiste qui clôt cette exposition, qui peut-être nous donne le dernier mot,
oui.
en parlant de ce futur imprévisible.
Incertain, et qui dessine sur la buée, au doigt, impredictable future, donc un futur d'incertitude en quelque sorte. Et c'est ça, on reste vraiment sur cette note-là à la fin de l'exposition, qui est magnifique, qui nous fait penser à plein de choses, qui nous révèle aussi des choses, le flou nous révèle, et c'est à voir, Claire Bernardini, au musée de l'Orangerie, dont vous êtes la directrice. Merci beaucoup pour cette très belle exposition, qui est visible à Paris jusqu'au 18 août prochain. Merci d'être venue sur France Inter.
Merci pour cette invitation.
Le journal à suivre.
Travailler avec une personne de plus de 50 ans, quelle idée!
Ben moi, ça a été la réponse à tous mes problèmes. Ça fait 11 ans qu'Isabelle travaille dans mon entreprise et c'est l'employée la plus fiable. Elle se forme en continu et c'est elle qui s'y connaît le mieux en IA.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Le maître du polar revient avec un nouveau héros. Découvrez Sous les eaux d'Avalon de Michael Connelly. Sur l'île de Santa Catalina, l'inspecteur Stilwell pensait couler des jours tranquilles. Mais un cadavre retrouvé dans le port va tout faire basculer. Nouveau personnage, nouvelle enquête, Sous les eaux d'Avalon, de Michael Connelly, aux éditions Calman-Lévy.
France Inter, partenaire du festival Mot pour mot, organisé par Le Monde, Le Nouvel Obs et Télérama. Une cinquième édition marrainée par Lola Lafont autour d'une quarantaine d'auteurs et autrices. Neige Sino, Vanessa Springora, Camille Laurence, Olivier Norek, Christine Angot. Rencontre, lecture,